Chers frères et sœurs, ce dimanche de Pâques a ceci de particulier qu'il nous met dans la situation des disciples de Jésus. Cette année, Pâques ne sera pas seulement une affaire intellectuelle, une sorte de réflexion métaphysique sur la vie et sur l'au-delà de la vie biologique. En ce dimanche de Pâques, nous sommes comme en ce premier jour du Seigneur. Vous êtes, comme les disciples, enfermés chez vous, dans la crainte, dans une ambiance marquée fortement par la présence de la mort. Et le temple est vide, comme l'était le tombeau de Jésus, manière pour les évangélistes de dire que la vie, ce n'est pas là qu'elle se joue. L'avenir, ce n'est pas là qu'il se forge. Aujourd'hui, ce temple ressemble étrangement à ce tombeau vide. Et nous pourrions nous souvenir de ce que disait l'architecte Rudy Ricciotti, lorsqu'il regardait cet intérieur du haut de la chaire, il disait ceci: l'architecture n'est pas fantastique ici, mais elle a une dignité. Ce qui fait sa dignité, c'est le sursaut de la délicatesse avant la disparition du signe. Le sursaut de la délicatesse avant la disparition du signe. Cette petite frise qui court tout le long des tribunes, un sursaut avant la disparition du signe. C'est cela que j'aimerais voir avec vous ce dimanche de Pâques. Le sursaut de délicatesse avant la disparition du signe. Au niveau personnel, au niveau social et au niveau de l'Église. Commençons par le plus important, vous. Chacun de vous. Chacun de nous. Chacun est éprouvé, même si sa période de confinement se passe peut-être bien. Comment pourrions-nous bien aller alors que tant de gens vont mal et qu'il y a déjà eu tant de morts? Le plus grand problème auquel nous sommes confrontés n'est pas de trouver des occupations pour passer le temps. Le vrai problème, c'est cette ambiance proprement mortelle qui plane comme elle planait autour des disciples au moment de Pâques. C'est une période de deuil pour beaucoup. C'est la peur d'être touché par le virus dont nous avons tant de mal à enrayer la propagation. C'est l'incertitude pour la suite, aussi bien sur le plan de la santé que sur le plan du travail. À la fois l'emploi et les ressources financières pour tenir nos engagements ou tout simplement pour avoir le minimum vital. Ce que nous ressentons et dont nous ne parlons pas trop autour de nous, c'est de la peur que le monde se défasse. Et cela vient de l'expression forgée par Albert Camus. Les personnels soignants ont été qualifiés de héros à juste titre. Mais pensons à ce que cela signifie pour eux. Pensons à quel point c'est lourd à porter. Terriblement lourd à porter. On pense qu'il faut être fort pour tout le monde. Dur à la tâche, dur à la peine. Alors qu'en vérité, nous sommes toutes et tous des êtres particulièrement vulnérables. C'est ce que nous ne pouvons pas cacher actuellement. C'est ce qui nous vient à la figure de façon extrêmement violente, comme un coup de fouet que nous recevons. Si les chrétiens fêtent la résurrection, c'est parce qu'il y a eu le Vendredi Saint, la mort de Jésus sur une croix. Même Jésus est mort. Il n'a rien pu faire pour empêcher cela. Dieu n'a rien pu faire pour empêcher cela, pour autant que nous ayons une vision anthropomorphique de Dieu. En conséquence, n'espérons pas être plus malins et pouvoir échapper au risque d'une situation sanitaire comme celle-ci. Il est tout à fait illusoire de penser qu'il ne nous arrivera rien, au prétexte que nous serions de bons croyants, par exemple. Le Vendredi Saint, c'est la révélation que Dieu n'est pas tout-puissant et que nous ne le sommes pas non plus par conséquent. Cela implique que nous soyons donc particulièrement responsables pour nous-mêmes et pour les autres. Mais c'est de sursaut que je veux vous parler aujourd'hui. Car l'histoire ne s'arrête pas au Vendredi Saint, de même qu'elle ne s'arrête pas au confinement des disciples qui ont peur, eux aussi, de mourir. Pâques est un sursaut de délicatesse qui fait la dignité humaine. Alors, vous me direz, Jésus ne fait pas vraiment dans la délicatesse dans cet épisode raconté par l'évangéliste Jean. Effectivement, lorsque Jésus fait le ménage, il semble que ce ne soit pas avec la plus grande délicatesse qui soit. Mais ce n'est pas là qu'est le sursaut. Le coup de fouet, comme je vous l'ai déjà fait entendre, les tables renversées, disent la violence de la mort. Le sursaut vient du fait que le temple est désormais libéré de toutes ces personnes qui servaient d'intermédiaires à la vie spirituelle, des intermédiaires entre les individus et Dieu. Fini le temps de la vie spirituelle par procuration. Désormais, chacun se tiendra face à Dieu, directement. Concrètement, en considérant que Dieu désigne ce qui a un caractère absolument vivable, cela signifie que nul ne doit s'en remettre à un autre pour décider de ce qui est le plus important dans sa vie. Quel que soit votre âge, quel que soit votre statut social, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre activité, vous êtes digne de vous tenir directement face à Dieu. C'est-à-dire de donner à votre vie l'orientation qui a le plus de sens pour vous. Vous êtes libre de faire vos choix, ce qui implique de s'éduquer, de s'informer, de faire preuve d'esprit critique. Je le répète, cela vaut quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition. Il est là le sursaut de dignité offert par Jésus qui fait le ménage dans le temple. Il est là le sursaut de dignité offert par Jésus qui est tout entier traversé par ce processus de mort et de résurrection. Même si nous sommes comme terrassés, même si les circonstances ont tendance à nous réduire à pas grand-chose, la puissance de résurrection nous est permise. Elle nous est permise pour relever notre dignité. Il est là le premier sursaut de délicatesse sur lequel je voulais attirer votre attention. Et c'est ce changement de perspective au niveau personnel qui pourra permettre un sursaut également au niveau social, au niveau de nos sociétés humaines. L'heure semble venue de proposer de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles de vie que nous devrons mettre en place, sous-entendu, pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Certainement, il est précieux de saisir ce temps de crise pour changer ce qui ne fonctionnait pas. Mais est-ce que Jésus a remplacé les marchands du temple par d'autres marchands du temple? Est-ce que Jésus a remplacé les biens de consommation spirituelle par d'autres biens de consommation spirituelle? Cela aurait finalement consisté à remplacer des idoles par d'autres idoles. Alors non, Jésus n'a pas agi de la sorte. Et c'est là un risque que nous courons. Les modèles économiques peuvent être véritablement les idoles modernes qui font passer les personnes, les relations entre les êtres vivants, après les organisations, après les structures. Dans la mesure où nous devrions nous conformer à un modèle donné, nous perdrions notre dignité d'homme libre. N'oublions pas que c'est le Shabbat, que c'est la loi, les structures, les organisations qui sont faites pour l'homme, et pas l'inverse. Alors, d'un point de vue théologique, remplacer un modèle basé sur la croissance par un modèle basé sur la décroissance, cela reste toujours une idolâtrie. Remplacer un modèle néolibéral par un modèle socialiste, cela reste toujours une idolâtrie. Faire du processus mort et résurrection un modèle auquel nous devrions nous conformer, auquel nous devrions nous soumettre, serait la même faute, idolâtre. Cela consisterait à imposer de casser des secteurs d'activité. Cela consisterait à imposer de mettre fin autoritairement à des entreprises, de fermer des sites de travail, au prétexte qu'il faut qu'il y ait de la mort pour qu'il y ait de la résurrection, pour qu'il y ait de la création d'emplois. En constatant qu'il y a et qu'il y aura toujours de la destruction dans le monde du travail, qu'il y a des métiers qui meurent, il n'est pas question d'imposer aveuglément des cessations d'activité pour créer de l'emploi. Il s'agit de prendre conscience que la mort d'un secteur d'activité, je pense par exemple au métier de maréchal ferrant, qui n'existe plus vraiment de nos jours, eh bien, la mort d'un secteur d'activité est suivie par la création de nouveaux métiers qui jusque-là n'existaient pas. Et cela ne se détermine pas à l'avance. Cela ne se planifie pas. C'est comme dans les relations interpersonnelles. On ne peut pas décider qu'il faut mettre fin à une amitié comme cela, aveuglément, en se disant qu'on retrouvera 10 autres amitiés comme cela, par hasard ou par la sainte providence de Dieu. Ce sont les individus ressuscités dans leur dignité qui sont capables d'inventer de nouveaux métiers, de nouvelles organisations, de nouvelles façons de vivre, ce qui permettra des sursauts au niveau d'une société. Quant à ceux qui rêvent d'un état-providence, qu'ils fassent donc un peu de théologie, puisque la providence est un thème théologique. S'ils pensent qu'un état-providence est capable d'éviter les pandémies, les catastrophes climatiques, le chômage de masse, les dépressions collectives, le malheur et le deuil, qu'ils relisent donc les récits de la Passion. Même Dieu ne peut pas empêcher cela. Se fier à un état-providence serait aussi idolâtre qu'un retour à une situation où le temple cesse d'être le lieu de Dieu, c'est-à-dire le lieu de la confrontation avec ce qui a un caractère ultime dans notre existence. Ce moment où le temple devient un lieu de commerce, où l'on négocie les modèles économiques, les modèles politiques et évidemment les places qui vont avec. Le sursaut de dignité d'une société, la Pâque d'une société, passe par la mort des modèles en tout genre et par la résurrection des initiatives individuelles qui engendreront de nouvelles communions, de nouvelles coopérations, une véritable fraternité qu'en termes non théologiques, nous pourrions appeler de la solidarité. J'en viens au troisième sursaut, le sursaut de l'Église. Qu'il n'y ait pas de malentendu, comme il peut y en avoir dans le récit de l'évangile de Jean entre Jésus et ses interlocuteurs, quand je pense Église, je ne pense pas à Église particulière, encore moins à bâtiment. J'espère bien que ce temple qui a 150 ans cette année sera encore en fonction dans 150 ans, mais pas en raison d'un fétichisme qui n'a rien à voir en christianisme. Cet espoir tient au fait qu'un temple est là pour offrir au monde le signe qu'il est toujours possible de transcender notre condition. Nous avons besoin de temples qui affirment publiquement cette vérité. Il est toujours possible de transcender notre condition. Mais ce n'est pas notre sujet pour l'heure. Le sujet, c'est l'Église dans la perspective chrétienne. Et l'Église dans la perspective chrétienne, c'est le corps de Jésus, le corps spirituel, ce corps qui surgit à partir de Pâques. L'Église, c'est nous tous. Par-delà nos particularismes religieux, par-delà les singularités de nos rites et de nos expressions religieuses. L'Église, c'est nous tous, par-delà la question de l'appartenance à une institution particulière. C'est nous tous directement face à Dieu, directement face à ce qui a un caractère sacré dans notre histoire. Voyez comme cela transcende largement nos affiliations particulières. Nous sommes l'Église invisible. Et nous en prenons certainement d'autant plus conscience actuellement dans cette situation si particulière où nous ne pouvons pas manifester le rassemblement de l'Église. Mais nous sentons bien qu'il y a pourtant des communions qui existent, par-delà les distances géographiques. L'Église véritable, c'est cette Église-là. Alors même que nous ne sommes pas rassemblés dans un même lieu, dans cet édifice qui n'a rien de particulièrement sacré, mais qui nous rappelle ce sursaut de la délicatesse avant la disparition du signe. Au fond, nous pourrions tous nous contenter de cette situation et nous laisser aller à cette nouvelle situation dont, inévitablement, nous trouverons bien des avantages. Dans quelques instants, nous serons invités à célébrer la scène d'une manière inhabituelle. Alors que nous subissons tous ce qui nous arrive depuis plusieurs semaines, nous aurons là l'occasion d'une communion qui, elle, ne sera pas subie, car nous choisissons librement de nous associer à cette célébration. Mais cette communion est bien insuffisante en vérité, comme notre façon de faire Église à travers tous ces moyens de communication, utiles, mais très insuffisants. Car l'Église, la véritable Église, le corps abattu et ressuscité de Jésus-Christ, ce n'est pas cette gentille communion avec le pasteur qu'on aime bien, ce n'est pas la consultation des sites qui nous plaisent parce qu'ils distribuent les contenus avec lesquels nous sommes d'accord. La véritable Église, c'est le corps du Christ Jésus, peut-être supplicié, mais ressuscité. C'est la famille spirituelle de Dieu, peut-être abattue, mais ressuscitée. Et pour le dire clairement, la véritable Église, la véritable Église spirituelle, le véritable corps de Jésus, c'est ce rassemblement des personnes que nous n'avons pas choisies, mais qui sont là habituellement, et qui injectent de l'altérité dans notre vie. L'Église, c'est tout à la fois les gens qui me plaisent et ceux que je ne supporte pas. L'Église, c'est l'humanité véritable et non la communauté fantasmée des gens avec lesquels je me sens bien, avec lesquels tout est positif, ou alors ces gentilles institutions qui font du divertissement en utilisant les mots du vocabulaire théologique. En faisant le ménage dans le temple, Jésus chasse tous les intermédiaires, tous les médias qui font écran à la proximité des uns avec les autres. Et notamment avec ceux que je n'ai pas choisis, et qui sont pourtant bel et bien mes frères et sœurs, celles et ceux qui sont mon prochain. Non pas un prochain que je choisis sur catalogue, non pas un prochain que je choisis en consultant les sites ou en vérifiant les liens que m'ont passé les amis. Non, celui qui s'approche de moi, celui que je n'ai pas appelé de mes vœux, mais dans lequel je vais pouvoir reconnaître un frère ou une sœur. Ainsi, le sursaut au niveau de l'Église nous permet de prendre conscience que non seulement ce confinement prendra fin, c'est une évidence, mais que nous aurons l'occasion d'éprouver notre humanité d'une manière encore plus intense que jamais. Notre Pâques consiste à laisser quelques modèles de vie et d'organisation mourir de leur propre mort pour que ressuscite cette responsabilité individuelle, notre responsabilité individuelle, qui permettra de relever tous ceux que cette situation a détruits. Avec d'autres, nous répondrons comme répondent les personnages bibliques auquel l'appel de la vie est lancé, nous dirons, nous aussi, me voici. Amen.